Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je voudrais que nous ouvrions, je vous propose que nous ouvrions un texte dans le livre des psaumes au chapitre 32 et verset 8. Le livre des psaumes, c'est un psaume de David. Alors on va lire simplement un verset qui va nous situer dans notre réflexion de ce jour. Le psaume 32, verset 8. Vous le connaissez, on pourrait le restituer de mémoire. Il est dit ceci: « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » N'est-ce pas formidable que Dieu nous laisse de telles paroles? Ce sont des promesses qui s'articulent autour de quatre verbes. Il est question naturellement d'être instruit, donc du savoir. Et quand on sait, eh bien, on a déjà, en effet, un bagage. On n'est pas dans l'ignorance. Alors, je t'instruirai, et à ce moment-là, on n'en restera pas là, je te montrerai les raisons de l'instruction et les buts, les objectifs, puisque tu le sais. Et puis, en cours de route, si tu manques de quelques informations, alors à ce moment-là, je te conseillerai, à droite, à gauche, devant, derrière, voilà. Hein. Le Seigneur est bienveillant. Hein. Et puis il nous dit ceci: mais tu ne marcheras pas seul sur ce chemin, parce que même si je te suis invisible, tu ne me vois pas, moi j'aurai les regards sur toi. Toi tu ne me vois pas, mais moi je sais. Et j'aurai les regards sur toi. C'est véritablement un verset de grande bienveillance de notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais justement situer l'objet de notre message. C'est une exhortation. On l'a déjà compris, hein, c'est un encouragement. Je pense que l'Église a besoin d'encouragement, même si vous venez régulièrement dans les réunions, que ce soit le caractère cultuel ou la prière, qui est un investissement, une activité spirituelle, ou tout simplement, eh bien, là, de vouloir faire connaître aux autres, on l'appelle l'évangélisation. Alors, à travers tout cela, eh bien, c'est une exhortation. Et figurez-vous que nous retrouvons la substance dans ce verset à ne pas dévier. Vous savez que nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est difficile, hein, quand on voit dans le domaine de la vie morale. Il y a tellement de pression, tellement de suggestions, tellement de tentations. Dans le domaine politique, je ne vous en parle pas parce que je me l'interdis. Et puis, dans bien d'autres situations, véritablement, l'Église est exposée à toutes sortes, comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, à toutes sortes de pressions, de tentations, toutes sortes de choses semblables. Alors, vous me l'accorderez, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je voudrais vous parler du déraillement ou tout simplement de décrocher. Alors, on pourrait donner un nom spécifique. Moi, je ne l'aime pas beaucoup, mais on pourrait appeler ça rétrogradage, c'est-à-dire aller en arrière. Parce que nous avons été instruits, parce que nous avons, eh bien, reçu ce qui est nécessaire pour aller devant. Et je vais illustrer cela à travers, finalement, eh bien, ce que nous connaissons tous. Quand il est question de dérailler, ça fait appel au train. Et quand il est question de décrocher, ça fait partie, finalement, ça fait appel à l'aviation. Alors, je ne sais pas quel est le plus enviable ou l'évitable à tout prix, mais bon, en tous les cas, on fait confiance aux hommes, hein, en tout cela. Hein. Mais il est question ce matin de faire confiance au Seigneur. Ça n'exclut pas que nous ayons quelquefois, eh bien, on va en parler, quelques appréhensions, quelques craintes, et pour certains, c'est plus marqué que pour d'autres. Alors, on va vous reparler un petit peu de tout ça. Je relis le texte, si vous voulez bien. C'est le texte de référence, c'est celui-ci. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. » J'en prendrai un deuxième. C'est dans Ésaïe, bref, mais qui nous donne un petit peu les conséquences heureuses. Pas malheureux, je ne veux pas vous faire peur. Mais heureuses, dans Ésaïe chapitre 30 et verset 21, on va retenir le positif. Et Dieu parle à l'Israélite pieux, il parle aux enfants de Dieu que nous sommes. Dieu dira, mais tes oreilles entendront derrière toi. Ah oui, on aime bien voir, nous. Et ça se passe derrière et on n'a pas Dieu pour voir en arrière, pas de rétroviseur. Hein. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Une question de vision, c'est une question d'audition. Voici le chemin. Marchez-y. Marchez-y. Puis au verset 23, alors, si tu te conformes à cette bienveillante sollicitation de Dieu, alors, verset 23, il répandra la pluie sur la semence que tu as ramise en terre, c'est-à-dire que ta vie, eh bien, produira. Elle produira selon le terme approprié dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus, le fruit. Mais pas le fruit humain, mais le fruit de l'esprit. Et le pain que produira, parce que c'est la conséquence de la graine qui est mise en terre et qui germe, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Vous pourrez relire la suite, parce que c'est une suite de bénédictions. Ça, c'est important quand même. Et j'aimerais présenter, pour illustrer, ça va être simple hein, ce matin, ça ne va pas être une grande complication théologique, hein, je tiens à vous le dire, mais c'est une illustration familière que la Bible, ou que Jésus, ouvre dans le livre du Nouveau Testament sous le mot de parabole. Parabole, c'est l'illustration des grandes vérités à caractère moral et spirituel. Et les gens étaient partie prenante. Ils aimaient ça, comme les orientaux aiment les images. Nous, on est, quoique l'image aujourd'hui, avec les techniques que nous avons aujourd'hui, on est addicts. Mais dans le contexte de l'Orient, eh bien, l'image, dans ce monde-là, hier comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une force particulière. Alors, nous allons simplement eh bien, faire l'observation d'un phénomène qui vient du génie humain. Oui, eh oui, je commence par là. Avant de parler du génie de Dieu, on va parler du génie humain, qu'on appelle la logistique. Qu'est-ce que c'est ça? Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait peut-être des études de logistique, parce que vous travaillez dans le monde du transport. Ouais. Ce n'est pas les transports d'allégresse. Hein. Mais ce sont les transports quand même, soit ferroviaire ou tout simplement la logistique aérienne, parce que, si je peux m'exprimer simplement, c'est l'organisation des circulations des biens et des personnes et de ses impératifs. Il y a des règles dans le monde, hein. Autrement, imaginez-vous la cacophonie que ça pourrait être. Hein. Voilà, tant dans le domaine de la circulation des trains. Et puis les avions, c'est encore autre chose. Ça, c'est sûr. Parce que ça suppose des horaires. Ça suppose de la maintenance. Ça va se remettre en... C'est un impulse, hein. Il n'y a pas tous les éléments pour l'instant, mais vous allez voir que ça va prendre forme. Les horaires, la maintenance, les correspondances. Ça vous est arrivé de rester plusieurs heures sur un quai de gare? Parce que bon, il y a eu un problème. Et c'est pas très agréable. Hein. Il y en a qui font cette expérience, soit dans un aéroport ou dans une gare. et autres dispositions, autres règles indispensables pour la bonne tenue des choses, pour que ça puisse fonctionner. Et on va rapprocher un petit peu la vie spirituelle dans tout ça, parce que la vie spirituelle, elle est miraculeuse. On connaît la parole qui est la règle de la conduite et toutes sortes de choses. Mais on connaît aussi tout ce qu'il peut y avoir au-delà des règles strictes humaines, eh bien, la souplesse et la flexibilité de la vie de l'esprit. Quelquefois, le Seigneur nous fait attendre sur un quai de gare. Puis il nous dit, ne t'inquiète pas, il va bien y avoir un train qui va arriver. Mais est-ce que c'est le bon train? Parce qu'il peut y en avoir d'autres. Hein. Et puis, quelquefois, on peut s'énerver en disant, bah oui, mais Seigneur, voilà, il y a ceci et cela, parce qu'on aime bien les choses bien réglées, on aime bien les choses comme on les a annoncées. Ben, je peux vous dire que Dieu, quand il annonce quelque chose, il va le faire. Mais il ne nous dit pas comment il va le faire, il ne nous dit pas quand il va le faire, et où il va le faire. Alors, tout ça, ce sont des dispositifs indispensables. C'est pourquoi, dans les halls de gare et dans les aéroports, naturellement, c'est marqué sur votre billet, c'est un petit peu partout, vous avez des agents qui sont là pour vous conseiller. Parce que c'est des choses qui sont bien établies, de toute façon. C'est ça, la logistique. Chaque jour, imaginez-vous, et là on en voit un peu plus dans le ciel actuellement depuis quelques mois, mais chaque jour, des milliers de trains et des milliers d'avions parcourent le monde. Or, que dire? Toute cette savante stratégie, c'est quelque chose. Moi, j'aime bien les avions et j'aime bien les trains. J'aime bien les bateaux. C'est pour ça que je suis venu passer ma retraite à Saint-Nazaire. Il y en a un. Hein. Alors, donc, ça repose sur une mise en œuvre de grande précision. Ah ouais, hein, c'est... l'erreur n'est pas permise. Hein, parce que ça peut avoir des conséquences, on va en dire quelques mots. Mais ça peut être terrible. Ah oui, un train, bon, voilà. Mais quoique, s'il n'y a qu'une seule voie, ça peut devenir difficile. Hein. Hein, et ils ont pris le soin de mettre quoi, qui se croisent, qu'il y ait des croisements naturels. Alors cette grande précision, elle commence au départ. Notre vie spirituelle, elle commence quand on découvre finalement la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas moi, c'est lui. Et ce sont des expériences extraordinaires qu'on n'oubliera jamais. Moi, pour moi, je l'oublierai jamais, ça, c'est sûr. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait quelques semaines. Enfin, quelques dizaines d'années. Mais toujours est-il que ça m'a marqué un appel, l'appel du Seigneur. Donc il y a un départ. Et je dis que le départ, il est beau parce que c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire sur un monde qu'on n'avait jamais soupçonné. Vous vous souvenez de votre conversion? Compte tenu de l'enthousiasme qui est le vôtre, il va falloir que je remonte mes manches. Non, mais je sais que vous êtes très attentif et que vous attendez la suite, c'est normal. Il y a un départ, il y a une arrivée, il y a un but. Quelle est la perspective qui est la nôtre pour chacun d'entre nous lorsque, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, quelle est la perspective que nous avions au fond de notre cœur? Et que le Saint-Esprit est venu nous confirmer d'une manière quelquefois miraculeuse? Ben, c'était justement d'arriver. Quel était le but quand Dieu a fait sortir les Hébreux d'Égypte? C'était pour les emmener dans le pays où coule le miel. Et il s'en est passé entre-temps. Hein. Ils ont eu chaud, hein, si on peut dire les choses comme ça. Et puis il y a justement, puisque c'est le titre de mon message, les aiguillages de l'existence. Il y a sur le plan du train, il y a sur le plan ferroviaire, les aiguillages. Parce que ce n'est pas une voie qui part de Saint-Nazaire et qui arrive à Montparnasse, une seule voie et sans problème qui s'arrête à la gare de Nantes, Angers, Le Mans, etc. Enfin bon, c'est pas, il n'y a pas que une ligne droite. Et ça bouge. Et ça bouge. Et ça, c'est quelque chose. Alors, les aiguillages, dans le temps, on l'a tous vu. Moi, quand j'étais petit, j'habitais avenue de la gare. Alors, j'ai pu regarder. Hein. Il n'y avait pas un gros trafic. Hein. Mais toujours est-il que je voyais un monsieur qui sortait à telle heure, et vous savez, sur une barre, il y avait une boule en bas, et hop, il faisait des efforts pour régler, pour savoir si ça devait aller voilà, dans telle ou telle direction. Aujourd'hui, c'est numérisé. Hein. On se demande d'ailleurs comment, dans ces milliers de croisements et de C'est quelque chose d'extraordinaire. On en reparlera tout à l'heure de tout ça, parce que le fonctionnement des aiguillages qui règlent, qui orientent, qui canalisent les flux, alors il suffit d'un défaut. Vous connaissez, il y a quelques années, l'histoire de l'éclisse, vous savez, qui a sauté dans la gare de Bretigny-sur-Orge. Il y a eu 7 morts et puis je ne sais pas combien de dizaines de blessés. Un train qui roulait à 157 km/h, hein, qui allait sur Limoges ou sur Clermont-Ferrand, peu importe, hein, tout ça, ce sont les détails. Et il suffit tout simplement d'un défaut, ou d'une erreur, ou encore d'une inattention. C'est comme un garde-barrière qui ne s'est pas réveillé et puis qui n'a pas baissé les barrières, hein, c'est pareil. Hein. Ça, c'est... Eh bien, ça peut être la cause de grandes catastrophes. Et dans la vie, figurez-vous, dans la vie morale, mettons au-dessus la vie spirituelle, je ne présente pas des règles légalistes, parce que ça, c'est pas mon style. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a quand même des principes, et des principes à respecter. On peut les enfreindre, oh, pas de problème, Dieu ne va pas nous tomber immédiatement sur la tête et puis sur le dos pour nous dire, écoute, voilà, ceci et cela. Maintenant, la conscience qui est à l'intérieur de nous-mêmes risque de nous le rappeler, hein. Et on va le savoir, de toute façon. Mais ce n'est pas parce qu'il va y avoir quelquefois des écarts, des voies sans issue dans lesquelles que la catastrophe va nous tomber sur la tête. Parce que de cela, Dieu veut nous apprendre aussi à revenir vers lui et à apprendre les grandes leçons qu'il s'est proposé de nous donner au moment du départ. Alors voilà, donc, les retards, je pense, dans l'aviation ou dans le ferroviaire, sont souvent décriés par les voyageurs. Vous aviez rendez-vous à 10h et vous arrivez à 3h du matin. Là, ça fait pas plaisir, hein. Avec tous les frais que ça puisse engager, naturellement. Pour différentes causes, hein, qu'il y a ce mécontentement, ça peut être le climat, on le voit en hiver, en été. Les défections techniques, quelquefois, y a des choses qui ne fonctionnent pas, parce que imaginez-vous, ces engins dont je parle en l'air et sur terre, ils fonctionnent sans s'arrêter. Hein. Il y a très peu de répit. Hein. Alors il peut y avoir naturellement des défections. Il peut y avoir des incidents matériels, ce que je viens de souligner. Il peut y avoir la malveillance. Vous êtes dans un train et vous avez un terroriste. Waouh ! Vous avez tout simplement quelqu'un qui a un besoin, qu'il croit peut-être urgent, et il tire la sonnette d'alarme. Et le train, stop. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça nous permet de voir les champs tout autour, et puis... Alors, la malveillance, c'est vrai. Et puis, les correspondances qui ne sont pas synchronisées, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très désagréable, hein, naturellement. Nous allons imaginer la vie, dans tous ces aspects, à un voyage en train. Vous avez déjà pris le train. Un métro, c'est un train, hein. Un tramway, non, ça dépend si... Dans le temps, on avait les trolleys. Vous vous souvenez des trolleys dans les villes, avec les grandes antennes, là, vous savez, comme des antennes d'abeilles. Hein, ça se baladait. Alors tout ça, ça a disparu, parce que bon, il y a eu l'évolution, et c'est heureux, naturellement. Alors, voyage en train, et nous tenons, nous, au poste de l'aiguillage de notre vie. Et voilà, nous sommes des agents, en quelque sorte. Les aiguillages, et c'est nous qui allons... Alors, on peut s'imaginer être à la fois dans le train, et puis s'imaginer que c'est nous qui... Voilà. On fait marcher notre train, on peut dire. Parce que le choix est permanent. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas 500 km de voie unique, et puis là, il n'y a aucun problème, et vous filez à la vitesse que vous avez choisie. Et c'est un choix permanent. En conséquence de quoi ? Toute décision hâtive. C'est pour ça que nous sommes exhortés à la patience, en tant que chrétiens. Ouais, soyez patients comme le laboureur qui sème sa semence, et c'est pas parce qu'il l'a mis en terre au mois de novembre, après avoir retourné la terre, que là, au mois de décembre, il va avoir la récolte. Hein. Et il y a quelqu'un qui est impatient dans l'Église. Vous pouvez lever la main. Personne. Les blés sont coupés, là. Eh oui, mais on est tous impatients pour une raison, pour une autre, pour des choses, quelquefois, qui ne nous gênent pas. Nous ne sommes pas impatients. Puis il y en a d'autres, alors là, je peux vous dire que ça nous... Et souvent, dans les petites choses de la vie, l'énervement dans la circulation automobile, par exemple, ça n'arrive jamais, ça, de toute façon. Alors, naturellement, tout cela, eh bien, il peut y avoir des causes. Des causes. Ça peut être des causes de retard, où nous avons sous-évalué les choses, parce que nous nous sommes fait des idées dans notre tête. Je parle sur le plan spirituel. Nous avions pensé que, mais Dieu nous répond à cela, mes pensées ne sont pas tes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et quoi qu'il en soit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli tous mes desseins. Alors pourquoi vous inquiéter? Parce que de toute façon, c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Ça, c'est clair. Alors cette sous-évaluation ou cette surévaluation, il y en a qui gonflent la poitrine, hein, naturellement. Alors cette sur ou sur, eh bien son contraire, la sous ou la surévaluation, peut avoir des conséquences fâcheuses, sinon plus sur la fin de notre voyage. J'avais pensé arriver à l'heure et puis finalement, et là je peux m'en prendre qu'à moi-même, je peux toujours incriminer la SNCF ou hein, la compagnie d'aviation, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que finalement c'est moi qui suis la cause de tout ça. Peut-être à cause de mon impatience, parce que je me suis imaginé que c'était ça et que ce n'est pas ça. M'imaginer que, voilà, toutes sortes de conditions. Dans un train, vous en conviendrez, rares sont les marches arrière. Oh, je me suis trompé. Allez, on prend la voie d'à côté. Vous pouvez toujours y aller, hein. C'est raide, hein, un rail. Hein. Et puis le train, il ne saute pas comme ça. Hein. Et quand il saute, c'est que ce n'est pas bon signe. Hein. Eh oui. Donc, les marches arrière ne sont pas autorisées, elles ne sont pas permises, elles ne sont pas programmées naturellement. Car un train, vous le savez aussi bien que moi, est conditionné sur des rails. Alors je dis l'adjectif, rigides, sur lesquels il rouille. Il roule, pardon. Et il rouille aussi. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Et quand il rouille, c'est qu'il ne roule plus. Et là, vous pouvez attendre longtemps. Hein. Des dizaines d'années avant qu'on remette la ligne en route. Alors, si on veut faire, si on veut braquer, on ne peut pas braquer. Hein. Vous êtes dedans, le train est parti, vous allez jusqu'au bout d'une manière ou d'une autre. Hein. Même si vous êtes trompé de destination, peu importe. Ajoutons dans le réseau ferroviaire, afin de garantir la sécurité, parce que c'est ça, hein, imaginez-vous, c'est toujours un drame, et ça défraie la chronique à chaque fois qu'il y a, à chaque fois, heureusement, rarement, heureusement, hein, qu'il y ait des catastrophes, mais il y a eu des catastrophes terribles hein, dans l'histoire. Et on nous rapporte encore que, voilà, il y a encore dans certains pays où les choses... Moi, je ne voudrais pas montrer dans certains trains, dans certaines, sur certains continents, hein, parce que, dites donc, faut déjà en vouloir quand vous voyez un petit peu l'état des choses. Alors, il y a cette garantie de sécurité et... En raison de cela, il y a un protocole rigoureux à respecter sur les vitesses. Vous avez vu quelquefois, on les voit à travers les vitres du train, il y a des signes, il y a également des chiffres, je ne connais pas trop. Hein. Il y a la vitesse et les ralentis qu'il faut respecter, hein, c'est impératif. Il y a les arrêts aussi. Il y a la signalisation visuelle, il y a les, comment pourrait-on dire, il y a les horaires à respecter, on l'a dit tout à l'heure, il y a la distanciation entre les trains, parce qu'autrement, si l'un pousse l'autre, ils vont aller très vite, ou ils ne vont plus aller vite du tout. Hein. Il y a quelquefois les croisements aussi, et là c'est mortel, hein. Quelque chose c'est comme la circulation automobile. Ainsi pouvons-nous, j'ai fait un petit amalgame là, j'ai fait un petit amas de conditions qu'on le connaît tous. Mais ces disciplines humaines qui sont de la logistique sont dans un but bien précis. C'est un départ et une arrivée dans de bonnes conditions. Et là, nous pourrions peut-être le comparer à la vie spirituelle, à la vie de la foi et à la vie par la foi. Et ça, c'est quelque chose donc d'essentiel et d'important. Je voudrais, pour illustrer un peu tout ça, c'est beaucoup d'images, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas, parce qu'on on y arrivera à la conclusion, hein, à poser les choses sur la théologie pratique. j'aimerais justement rappeler que l'activation d'un aiguillage, alors on l'a dit dans le temps, c'était manuel, il fallait avoir des gros bras, puis aujourd'hui ça se fait avec la magie de l'informatique. Donc l'activation des aiguillages, c'est avant tout, écoutez bien, notre volonté. On ne peut pas dire c'est l'autre. C'est avant tout nos désirs. C'est avant tout nos convoitises et nos envies. Parce que le Seigneur ne nous a pas enfermés dans une prison. Il nous a appelés. Il m'a dit, écoute, voilà, Dixit, le psaume 23, moi je t'ai mis dans le vert pâturage. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, etc., etc. Mais il est bien recommandé, finalement, de faire de l'Éternel notre berger. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, on peut dire ça comme ça. Ça dépend de... Parce que nous restons des individus libres, quelque part. Alors, notre volonté, nos désirs, notre convoitise, nos envies et nos ambitions. Alors là, quelquefois, on rentre un petit peu en conflit, en contestation avec Dieu, en disant, mais tu sais, Seigneur, moi, je suis... T'as pas vu que j'étais ? N'en disons pas plus. Parce que c'est très bien qui nous sommes, de toute façon. Excusez-moi. Et autre fantaisie qui échappe aux règles. Et qui dit règle, dit règlement, dit réglementation. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien voulu dire que tout ça, ces disciplines, eh bien, elles peuvent être appropriées, elles peuvent être mises en, tout simplement en parallèle avec eh bien, la vie spirituelle, la vie de la foi, c'est ça. C'est pas la vie de la loi, c'est la vie de la foi, puisque nous restons des êtres libres. J'aimerais vous dire, vous donner une anecdote que nous avons vécue avec Myriam, il y a quelques années en arrière. Par rapport à cette incompréhension des aiguillages d'une gare, par exemple, je parle toujours du terme ferroviaire, nous avons eu l'occasion d'aller aux États-Unis et au Canada pendant plusieurs semaines, et il y avait dans la ville de Toronto, et elle y est toujours d'ailleurs, la fameuse tour de la gare de Toronto. Alors, c'est pas un petit monticule. Cette tour, elle est juste plantée entre le lac Ontario, la ville derrière, et la gare en dessous. Et quand vous montez dans cette tour, que je rappelle, qui fait 553 mètres de hauteur, la tour Eiffel est petite à côté. C'est visitable, tout le monde peut y aller, naturellement. Elle fait 147 étages. Et vous avez deux boules. La première boule, pour ceux qui n'ont pas peur du vertige. Elle est pas mal. Et il y en a une plus petite. Ce sont des plateformes pour les visiteurs, naturellement. Et quand vous êtes là-haut, ça fait un drôle d'effet, parce que là, vous avez en dessous vos pieds, eh bien, la gare. Et non seulement vous avez la gare, mais vous avez tout le paysage, tout autour. Vous avez une vue sur le lac Ontario extraordinaire. Et moi, j'y suis allé, les femmes, peut-être un peu plus sensibles au vertige, sont restées dans la première partie. Moi, avec mon ami Philippe, on est monté là-haut. Quand on est arrivé là-haut, la boule, il n'y avait pas de plancher. Plancher de verre. Et vous marchiez sur... Je ne sais pas, quelqu'un y a été peut-être à Toronto, non ? Oui ? Et quand vous arrivez là-haut, vous avez visité la tour ? Non, ça vaut la peine si vous voulez avoir le verre. Ah, vous l'avez vu d'en bas, oui. C'est moins impressionnant. Et quand vous faites le tour, eh bien, vous marchez sur du verre. Et là, ça vous fait une impression. Mais c'est solide. C'est ce qu'on nous a dit. Personne n'est jamais tombé. Elle est bien fermée, la boule. Mais ça vous fait quelque chose. Et vous regardez en bas, et vous avez cette liaison qui va de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Vancouver, 5000 ou 6000 kilomètres, je ne sais pas. Et là, c'est une gare principale au Canada. Et vous avez, mais alors, un embroglio d'aiguillages, de coupures. Et vous avez ça aussi. Bon, ça ne donne pas la même chose à Saint-Nazaire. Craignez rien. Mais toujours est-il que vous voyez ça d'une hauteur, et vous voyez sur la longueur, et vous avez, mais alors, un mélange, vous y comprenez rien. Rien de rien. On appelle ça un entrelac, un entrelac, si vous voulez. Ou tout simplement, eh bien, c'est un enchevêtrement de ferraille. Et vous avez les trains qui sont comme des trains miniatures, comme pour les enfants, vous savez. Ouh, quand on est redescendu, on était content d'avoir les pieds sur terre. Mais ça valait la peine de le faire. Et ça nous a marqué. parce que c'est un véritable labyrinthe. Ça nous a donné une idée de ce que pouvaient être les aiguillages. Et nécessaire, parce que ça part dans toutes les directions. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est quand même assez particulier. Hein. Jésus affirmera à Marie de Béthanie, il affirmera ceci, « Marie a choisi la bonne part. » Alors, aujourd'hui, peut-être, en entendant ce message, eh bien, peut-être certains, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez l'aiguillage en main et vous êtes peut-être un peu perdu, égaré. Et vous ne savez pas comment les choses, où vous dirigez. Eh bien, je te montrerai la voie que tu dois suivre, nous dit le Seigneur. Mais il va falloir peut-être de la souplesse. Il va falloir peut-être renoncer à certaines choses. Il va falloir peut-être essayer de dire, Seigneur, eh bien, je te prie parce que j'ai besoin vraiment que tu m'aides. Et que moi, ce que je suis, moi personnellement, eh bien, je vais le mettre de côté pour que ce soit tout toi en moi. Oui, tout toi en moi. Et c'est vrai que quand Marie et Marthe, devant ce formidable rendez-vous avec Jésus, Jésus dira, et pourtant Marthe avait fait ce qu'il fallait, hein. C'était bien, ouais, parce qu'elle a fait la cuisine pour tout le monde, mais Marthe, elle était là, tranquille, assise, sa sœur n'était pas contente, et Jésus lui dit, mais elle a choisi la bonne part. Eh bien, c'est un peu dans l'attitude de Marie que nous devons être en permanence, et de dire, Seigneur, devant tout ce qu'il y a à faire, devant toutes les occupations, préoccupations, etc., etc., donne-moi, finalement, eh bien, de pouvoir me laisser conduire. Et par bonne part, nous entendons choisir la vie sous l'autorité de Jésus. Et pas de temps en temps quand ça me fait plaisir. Pas occasionnellement ou en fonction des circonstances, dans un contexte particulier, mais en permanence. Est-ce que nous n'aurions pas oublié que le Saint-Esprit vit en nous? Dans l'Ancien Testament, il y avait des voix qui parlaient aux prophètes de l'extérieur pour diriger, pour conduire, etc. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est plus de cette manière, il n'agit plus. Il agit auprès de tout le monde, ce n'est pas seulement des prophètes. Hein. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige. Attends, va, pars, etc. Arrête-toi. Toutes sortes de choses. Alors c'est vrai que l'autorité de Jésus, parce que Jésus est le conducteur du train, et il est le pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion ? Un grand classique, ça. Hein, eh oui, conducteur. Afin de vivre la vraie vie qui atteindra sa destination sûrement. Dans le deuxième texte que nous avons lu tout à l'heure, vous savez où il était question que, eh bien, Dieu nous bénit, etc., parce qu'il y a une voix qui parle devant nous, qui parle derrière nous, etc., et qui nous montre, voici la voie que tu dois suivre. Et elle, souvent, elle est subtile, elle est moins criante que celle de l'aventure et de celle qui nous pousse peut-être à faire des erreurs. Hein. Alors, nous avons tout cela pour notre réflexion et nourrir notre réflexion. Monter dans un train qui roule à 317 heures, je crois que le TGV, là, jusqu'au Mans, c'est ce qu'il fait, hein. 317 km/h, enfin, peut-être pas toujours, mais c'est un acte de foi. Mais on n'a pas peur, on monte dans le train. D'ailleurs, il y a quelque chose qui nous rassure, que si véritablement on doit mourir, on va tous mourir ensemble. Non, c'est pas ça. Mais toujours est-il que... Non, c'est un acte de foi. Mais la même situation en avion, eh bien, c'est quand même quelque chose qui revêt une autre dimension. On les appelle les aiguilleurs du ciel. Ils sont très loin, ils sont dans la tour de contrôle. Vous ne les connaissez pas, vous ne les voyez pas, remarque, vous allez me dire, avec les trains, c'est la même chose aujourd'hui. Leur responsabilité est une responsabilité accrue. Parce que, on l'a compris, c'est pas du tout le même enjeu. Hein. Et lequel, ces aiguilleurs du ciel, de la tour de contrôle, gèrent par écran interposé, au décollage et à l'atterrissage. Et puis, ils nous suivent, hein, de toute façon. Mais c'est pas la même chose que de monter dans un train. Il y a peu de gens qui ont peur de monter dans un train. C'est vrai, on s'engouffre dedans et puis on se dit, voilà, c'est comme ça. Hein. Parce que c'est la terre ferme. Voilà, on est des terriens, pas encore des martiens. mais on est des terriens et on est rassurés. Mais il en va autrement pour aller se renfermer dans une carlingue d'avion. D'un avion qui est à 10 000 mètres d'altitude, 9 000. Et là, c'est une prouesse de confiance. Parce que là, on y pense à chaque fois. Bon, tout le monde d'entre nous a pris l'avion une ou plusieurs fois. Et c'est vrai que en rentrant, quand la porte se ferme, on se dit, vous n'allez pas voir le steward en disant, en plein milieu du vol, je veux descendre. Parce que soit on descend tous, ou personne ne descend. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que c'est un autre. Parce que là, on n'est plus dans notre élément d'homme sur la terre. Et ça fait de la casse. Chaque voyageur, c'est quand il part et il espère arriver vivant. Ben oui, c'est normal d'être payé un billet. Pour ça, dans le but. Hein. Mais bon, ça, c'est secondaire. Il en va de la manière dont nous traversons cette vie, si on veut peut-être se rapprocher, à travers les bons et les mauvais choix de la route, du chemin, avec, et je dis bien et je précise, avec ou sans Dieu. Il y a des gens qui sont vraiment tout entiers dans le cœur et tout entiers à Dieu, pas de problème. Il y a parfois des enfants de Dieu dont le cœur est à moitié pour eux, et la moitié pour le Seigneur, et puis il y en a pour d'autres. Hein, c'est la grande majorité de notre monde où ils n'en ont rien à faire de Dieu. Et ce n'est pas eux qui vont prier avant de prendre le risque de faire une aventure comme nous en parlons en ce moment. Si oui ou non, tout simplement, à chaque aiguillage, nous comprenons, si on a des aiguillages dans notre vie, hein, c'est tous les jours que ça arrive. Alors pour des choses insignifiantes, pour des choses secondaires, et puis pour des choses essentielles. Moi je pense particulièrement, permettez-moi, parce que je suis un âgé maintenant, mais pour les jeunes, c'est important de savoir les choix que l'on va faire au niveau de notre vie sentimentale. Eh oui, et vous savez, il n'y a que le temps qui peut parler avec tout ça. Ça, c'est quelque chose. Et puis, dans le choix d'un travail, c'est encore beaucoup plus compliqué aujourd'hui, avec tout le contexte de difficultés, de problèmes, la problématique de se faire embaucher et tout ça, c'est quelque chose. Hein. Et puis, il y en a d'autres situations comme ça, quand on veut lancer une entreprise et que l'on investit, il faut faire attention, hein. Que tout semble facile, hein, dans un moment vous avez des crédits, vous avez tout ce que vous voulez, mais attention. Si nous comprenons, si nous entendons, si nous obéissons, quand Dieu nous prévient, alors qu'il nous fait des promesses, de toute manière, il y a toujours dans sa parole des promesses, c'est-à-dire lui faire foi, et c'est le crédit que nous mettons en lui. Moi, je fais crédit à la SNCF quand je prends le train. Je fais crédit à la compagnie d'aviation quand, finalement, je prends l'avion. Quand je prends un bateau, hein, si je suis au milieu de l'Atlantique et je dois rentrer à la nage, je ne m'en sens pas trop capable. Hein. Alors, c'est le mot crédit. Le mot crédit, c'est confiance. C'est finalement, eh bien, s'abandonner. On lâche notre vie entre les mains de d'autres en pensant qu'ils sont en capacité. Que ce qu'ils nous ont promis dans le billet du voyage, eh bien que finalement ils vont le tenir. D'ailleurs, ils feront tout pour ça. Maintenant, il peut y avoir des impondérables. Si véritablement, ce crédit, nous l'utilisons ou si nous le dilapidons. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, hein ? Alors lui, il s'était servi dans la caisse. Mais bon, elle n'est pas inépuisable. Reste à savoir comment prendre. Et ça, c'est la troisième ou quatrième question, je n'ai pas compté, je n'ai pas rêvé. Mais prendre ou reprendre la bonne direction après une erreur. Alors, on sait que dans un train, on ne peut pas faire demi-tour. Hein, pour aller jusqu'au bout et reprendre dans l'autre sens. Bon, dans un avion, il peut encore faire finalement eh bien, un cercle pour reprendre la bonne direction. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'ils sont en approche d'aéroport et que les choses se passent soit parce qu'il y a un encombrement et toutes sortes de choses. C'est beaucoup plus simple, il y a plus de place là-haut. Hein. Alors c'est ça, qu'est-ce que l'on fait après erreur ? Et ça nous concerne les uns et les autres. Parce que celui qui dit « moi je ne fais jamais d'erreur, je ne me trompe jamais », moi je dis « c'est un super saint, il devrait avoir son auréole avant de partir au ciel ». Ah oui, mais on fait tous des erreurs. Et on apprend de nos erreurs. Et on va en tirer parti de nos erreurs. On va dire « zut, Moi, j'en ai fait, hein, les erreurs. Et je me dis, bon, ben oui, j'aurais pas dû faire ceci et cela. J'aurais dû être plus prudent. Notre Dieu est avant tout un Dieu de miséricorde. Je le souligne. Ouais. Un Dieu qui nous fait grâce. Dans la mesure où, naturellement, nous-mêmes, nous reconnaissons. Parce que il y a des gens qui, bornés, il n'y a pas de problème. Toi, Seigneur, tu as eu tort. Moi, j'ai raison. Bon, ben, à ce moment-là, Seigneur ne va pas nous empêcher d'aller jusqu'au bout et de vivre ce que nous avons à vivre, puisque c'est nous qui l'avons choisi. Et nous ne pourrons pas nous plaindre aux autres. C'est quelquefois ce que nous faisons, malheureusement. Pas se plaindre par rapport aux autres. Alors, c'est un Dieu de grâce. Et lorsque se trompe de route, c'est vraiment problématique dans certains cas. Il y a des choses qui engagent vraiment notre vie, qui engagent notre couple, qui engagent notre famille, qui engagent nos finances, qui engagent notre santé aussi. Puis on pourrait multiplier à l'infini. Alors quand on se trompe de route, écoutez-moi, c'est vraiment un mot-clé dans notre message, son pardon. Son pardon est toujours en action immédiate dans la mesure où nous le reconnaissons et que nous lui demandons pardon. La repentance, pas une repentance circonstancielle motivée par la crainte et la peur du jugement ou de la condamnation ou du coup de trique, non, mais profonde, comme quand on s'est engagé pour Jésus il nous a appelés au moment de notre conversion. Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous avons à ce moment-là, c'était tout beau, tout frais, c'était le printemps, eh bien, vraiment une repentance. On n'aurait pas fait ce parcours autrement, ça c'est pas possible. Alors, est toujours en action ce pardon pour redresser les trajectoires qui vacillent. Et c'est ça justement la différence des hommes. La différence des hommes, c'est que bon voilà, tu t'es trompé, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Ça coûte cher, hein, quelquefois. Mais Dieu, c'est pas tout à fait la même chose. Et éviter le fossé, éviter la chute, et partir, et surtout parvenir, les yeux fixés sur Jésus, jusqu'au bout. N'allons pas crier victoire à la dernière station. Hein. C'est pas encore ça, parce qu'il y en a un qui nous attend. Ça, je peux vous dire qu'il n'a peut-être pas voulu vous avoir sur le trajet. Hein, et vous avez vu, il y a des étapes, il y a eu des stations. Mais la dernière fois, s'il peut vous avoir et s'il peut nous avoir, il va mettre le paquet. Il est animé d'une grande rage, nous dit le livre de l'Apocalypse, hein, dans les derniers temps. Mais les derniers temps, ils sont toujours là, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Je termine. Ma femme n'est pas là. La conclusion. Je dirais, brièvement, un voyage sécurisé, d'une part, un voyage confortable, vaut mieux être bien assis, hein, naturellement, c'est-à-dire en paix. Et j'ajoute, malgré les aléas, parce que ça ne se passe pas toujours bien, malgré les conditions sine qua non, que ce soit en train ou en avion, ou quelquefois nous avons le mal de mer, ou nous avons le mal de terre, ou nous avons le mal de l'air, que nous sommes malades, que nous sommes chahutés, que nous sommes éprouvés, que nous sommes persécutés, que nous avons la nausée de la vie, savoir s'abandonner et vivre dans l'espérance, eh bien nous assure, parce qu'on passera par là à un moment donné, c'est pas toujours du grand confort sur la terre, eh bien, nous assure qu'à la fin du voyage, le meilleur nous attend. Le meilleur nous attend. Et je termine, parce que je n'ai pas fini. Vous avez jusqu'à 20h pour aller voter. Bon. C'est simple à retenir. Parce que j'ai parlé beaucoup d'images. Mais je voudrais quand même terminer sur trois éléments essentiellement bibliques. D'abord, c'est une exhortation qui nous est donnée. Dans Deutéronome, je vais simplement me contenter de lire le passage. Dans Deutéronome, il est dit ceci, soit vous suivez ou vous écoutez, mais je vais le dire quand même, de toute manière. Dans Deutéronome, écoutez, vous allez pouvoir faire, vous allez syncrétiser tout ça. Au chapitre 5 et au verset 32 et 33, il est dit ceci. C'est Dieu qui parle à Israël, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Ça y est, c'est compris hein, maintenant. Hein. Voilà. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous a prescrit, afin que vous viviez et que vous puissiez prolonger vos jours. C'est pas beau ça? La fin du voyage? Mais c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous le donne. On ne se détourne ni à droite ni à gauche. On suit entièrement. Et de vivre finalement heureux. Et la promesse de la longévité est garantie. La deuxième chose, c'est dans Matthieu chapitre 7, et là c'est un grand classique du genre, hein, c'est le sermon sur la montagne, quand il est dit ceci, « Entrez par la porte étroite ». C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas forcément évident. Il y aura des tribulations et des problèmes. Mais entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Vous avez remarqué la différence qu'il y avait entre deux petits mots. Ceux qui suivent le chemin aisé, large, il y en a beaucoup qui entrent par là. Et puis ceux qui rentrent par la porte étroite et le chemin resserré, il y en a peu. Soyons de ceux qui, par notre foi, rentrons par cette porte peut-être apparemment difficile, mais glorieuse. Et puis je termine. À travers, là c'est une visibilité assurée. La première c'était une exhortation, la deuxième c'est une visibilité assurée. La troisième c'est une certitude d'arrivée dans Hébreu, parce que là il nous est montré que c'est pas une route, c'est de l'autoroute. Et l'autoroute qui a été ouverte par Jésus, et vous devinez peut-être le texte, c'est au chapitre 10 et au verset 20. Le mot-clé c'est Jésus pilote. Oui. Et quand il est dit ceci, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers le voile, à travers son sacrifice. Et un peu plus loin, il nous est dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère et la plénitude de la foi. Mes frères et sœurs, ce matin, j'espère que vous avez fait un bon voyage. Mais je voudrais vous dire que le voyage ne se termine pas là. On peut le faire ensemble, si vous voulez encore. Hein. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui nous parle. Et j'ai voulu prendre des choses toutes simples, des images, des paraboles, en quelque sorte, à la manière de notre vie d'aujourd'hui, pour nous montrer que le Seigneur ne nous a pas abandonnés dans ce voyage qui nous conduit non pas à Canaan, mais dans le royaume des cieux. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu as souvent proposé des choses simples à tes contemporains. Parce que, en effet, nous avons besoin, Seigneur, non pas d'intellectualiser, Seigneur, les choses, une haute théologie, bien qu'elle soit nécessaire. Mais tu nous parles. En effet, comme à tes enfants, nous avons besoin de comprendre que nous sommes sur un chemin. Et qu'ainsi, Seigneur, toi-même, tu l'as dressé pour nous. Moi, je te prie, Seigneur, pour ceux qui marchent, et qui marchent bien, qui fonctionnent bien, Seigneur, dans la foi de l'Esprit. Mais je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là, en effet, Père éternel, tourmentés, qui sont là, handicapés, dont la vie ne leur fait pas de cadeau, dont la vie est difficile. Alors aide-les, Seigneur, à comprendre et à te faire confiance, à te faire crédit, Seigneur. Et puis, nous voulons te prier. Moi, je veux aussi penser à ceux qui sont des débutants et des commençants dans la foi parce qu'ils ont engagé récemment. Eh bien, aide-les, Seigneur, à avoir une perspective heureuse qu'ils sont sur le départ, ils sont partis, mais que véritablement toute leur vie, quelle que soit la longueur de leur existence, eh bien, ils puissent se réjouir qu'un jour ils arriveront là où il n'y aura plus de larmes ni de peur, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus toutes ces choses, mais que nous serons véritablement dans cette dimension parfaite, dans la plénitude de cette présence de Jésus. Merci notre Dieu. Amen.